Et le premier appel que je prends ce soir sur notre libre antenne, c'est l'appel d'Annick. Bonsoir Annick.
Oui, bonsoir.
Alors on me dit que vous souhaitiez réagir à l'émission d'hier.
Oui, je voulais réagir à l'émission d'hier parce que en écoutant Claire et ce qu'elle disait pour sa fille Marie, je reconnaissais des choses que j'ai rencontrées dans mon métier d'infirmière autrefois et puis je me suis reconvertie après dans la communication, j'ai rencontré ça.
Annick, attendez, si vous le permettez, je vais récapituler pour ceux qui n'étaient pas là hier soir parce que ça va être compliqué de raccrocher les wagons pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle.
Oui.
Donc, ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai eu d'abord une première Claire, qui est une maman d'une jeune fille lourdement handicapée, qui nous racontait son désespoir quand elle s'est rendue compte que sa fille était couchée à 17h dans le centre dans lequel elle est.
Oui.
Et que finalement, elle se rendait compte que le personnel n'avait juste pas le temps de s'occuper d'elle comme elle l'aurait souhaité.
Oui.
Et juste après, j'ai eu un appel d'une autre Claire, qui elle était personnelle soignante, elle était infirmière, et qui nous expliquait son désespoir justement de se rendre compte à quel point le personnel soignant n'avait pas les moyens de faire mieux, de faire autrement. Et l'échange entre les deux était vraiment très intéressant. Voilà, merci pour ce petit espace de récapitulation.
Oui, excusez-moi.
Récapitulation.
Oui, ça se dit.
D'accord, j'ai eu un doute en le disant. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait réagir, vous, Annick?
Alors, ce qui me fait réagir, c'est que je trouve en fait qu'elle parlait du même problème et qu'il y a des solutions. Et ces solutions, par contre, elles n'arrivent pas. Et bon, j'ai 65 ans, j'ai été infirmière en 73, en 74, il y avait des revendications qui existaient. Et c'était les mêmes revendications que ce qui existe aujourd'hui.
Oui, c'est ce qu'on disait hier, ça n'a pas changé depuis des décennies.
Ça a changé depuis des décennies. En 74, on revendiquait une reconnaissance du travail. On revendiquait des salaires plus adaptés au travail. Et puis, on avait besoin de valoriser notre rôle. Je pense qu'il y avait les infirmières, mais il y a aussi, je pense, comme ça se passe aussi avant, dans tous les services hospitaliers, il y a une hiérarchie qui est grande. Hein, il y a énormément de strates, beaucoup de métiers. Et au lieu de... Il y a une gouvernance verticale, hein, l'organisation très verticale, bien souvent. Et le bas des échelons, c'est souvent l'ASH, aide-soignant hospitalier, les aides-soignants. Et puis, tout en dessous, l'objet du travail, qui est le patient. Alors, c'est vrai que c'est très difficile de mener des rythmes quand il y a beaucoup de... quand il y a des événements comme le Covid. Mais moi, j'ai connu aussi la sécheresse en 76. Je me souviens que quand on arrivait dans le service, il n'y avait plus de place dans la morgue. Donc, il y avait des personnes décédées qui restaient dans les chambres. Quand on arrivait dans le service, on sentait. Ah, il y a eu des morts.
Oh là là.
Et on ne va pas pouvoir... Bon. Oui. Vous voyez, il y a des choses qui sont très glauques. Hein. Bon, ce que j'appellerais les coups de bourre. Et puis, il y a le quotidien où le fait de vivre des choses, on n'a pas l'impression... Il y a cette hiérarchie qui est assez pesante, le besoin de rentabiliser les services aussi, qui fait qu'il y a une pression qui est assez forte. Je pense qu'on a diminué beaucoup le nombre de personnel pour rentabiliser beaucoup plus. Et ça amène aussi des incohérences.
Et des situations extrêmes, comme celle dont on parlait hier. Quoi.
Oui. Oui. Alors hier, par exemple, c'est vrai qu'à 17h, les personnes sont couchées. Ce qui est terrible, c'est qu'on leur donne leur repas une fois qu'elles sont au lit. Imaginez qu'on nous fasse la même chose. On a organisé des services de 2 fois 12 heures. Hein, donc pendant 12 heures, on soigne, pendant 12 heures, on garde. C'est ce que j'ai entendu hier avec la garde de nuit. Et à l'époque, c'est vrai que c'était 3-8. C'était des soins 3 fois 8 heures. Mais toute cette pression qui existe dans le service, elle retombe aussi sur le patient.
Bien sûr.
Et le patient, j'ai l'impression que tout s'enchaîne et que ça arrive, sur l'objet du travail. Et le patient, on banalise un petit peu sa situation. On banalise même beaucoup. Hein. Les cas, on s'y habitue. Les gens qui ont mal, on s'y habitue. Je me souviens... parce que mon mari était interne dans une maternité. Je me souviens d'une sage-femme qui commençait à dire, quand elle entendait crier une personne qui allait accoucher, bon, je vais y aller parce qu'elle commence à chanter. Vous voyez, il y a une banalisation de la douleur, là. Hein. J'entendais pas parler forcément de madame Attel ou madame une telle, j'entendais la bonne femme. Hein? Bon, ça, ça a continué. J'ai été hospitalisée pour une bricole, c'était pas madame Attel, j'entendais, bon, faut descendre la lux valgus. Oui. La lux valgus, bon, c'est un petit problème de pied qui s'opère facilement. Je m'appelais la lux valgus. On s'appelle on aussi. Hein? Donc ça, c'est ce que j'appelle l'infantilisation. Alors, à 17h, on va aller au fauteuil.
Oui, ou alors le pire, c'est elle. Elle a bien pris ses médicaments ?
Oui, elle a fait pipi.
Oui, c'est ça.
Elle a fait pipi.
Alors, en même temps, Annick, Dieu sait que je suis totalement d'accord avec vous et que je pense que tous ces gens-là devraient être formés.
Tout n'est pas comme ça. Tout n'est pas toujours comme
ça. À leur décharge, la majorité de ces gens-là n'ont jamais été formés pour utiliser le bon vocabulaire.
Oui.
Et ils sont, je sais à quel point ils sont épuisés et qu'ils n'ont pas les outils nécessaires. Donc, une fois de plus, ça n'excuse pas.
Non, ça explique. Et j'ai justement animé des formations et dans ce sens-là, avec des infirmières et aussi des hôtesses d'accueil de clinique. Et c'est vrai que quand on leur donne conscience de ce qui se passe, quand elles se remettent en question et elles apprécient encore plus leur travail derrière. Et je pense qu'il ne faut pas leur faire porter de jugement de valeur par rapport à ça, parce que ce sont des habitudes. C'est une façon de s'exprimer.
Et puis, une fois de plus, on se rend compte, moi j'échange beaucoup avec des gens qui sont dans ces métiers-là, qui ne savent pas, c'est juste qu'on ne les a pas formés. Quand je commence à leur
même
expliquer...
Même les médecins.
Bien sûr, je commence à leur expliquer, par exemple, que notre cerveau ne comprend pas la négation. Alors, il me regarde avec de grands yeux ronds. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant bleu », la première image mentale que vous allez vous faire, c'est l'éléphant bleu. Donc, quand vous dites à un patient « ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ça fait pas mal », qu'est-ce qu'on entend ? Inquiéter, peur, mal. Oui. Et donc, petit à petit, je leur dis « s'il vous plaît, transformez ces formulations-là en formulations positives. Soyez rassurés. »
C'est important.
Tous ces termes-là, surtout quand on est ultra sensible, parce que forcément, quand on est dans un milieu médical, en tant que patient, on est encore deux fois plus sensible qu'à l'extérieur. Chaque regard est interprété, chaque mot nous nourrit pendant des heures et des heures. Mais quand vous avez raison quand vous me dites, quand ils le comprennent, ça change aussi leur vie à eux.
Oui.
Parce qu'ils se rendent compte que les relations avec les patients et les relations entre eux sont bien plus agréables et plus faciles après.
Oui, et quand le patient devient un objet de travail intéressant, je pense que ça les valorise aussi.
Bien sûr.
Hein? Parce que le patient, il n'y a pas que le soin, on voit l'infirmière avec les piqûres, etc. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas toujours très agréables. Je pense au change, on parlait des couches et des hier.
Oui, tout à fait.
Puis, c'est beaucoup plus facile d'aller mettre des couches à une personne que de respecter son rythme biologique et puis de la mettre sur une chaise percée.
C'est de l'accompagner, oui.
Oui, mais ça fait partie de la vie. Et et c'est aussi une chose qui me fait mal parce que je suis aidante pour ma mère. Ma mère a 103 ans.
103 ans ?
103 ans et elle est en pleine forme. Mais quand elle avait 100 ans, elle était en mauvaise forme. Et elle ne voulait pas aller en EHPAD parce qu'elle, pour elle, aller en EHPAD, c'était rentrer un petit peu comme au pensionnat. Ce n'était pas trop son genre. Hein. Elle voulait rester dans sa maison, puis on l'a respectée. Il y a des aides à domicile qui sont venues et un service infirmier. Le service infirmier, écoutez, pendant 18 ans, ça a été super. Et ils ont connu ma mère qui gérait elle-même ses affaires, qui payait ses soins avec elle faisait elle-même ses chèques, etc. Puis un petit peu à la fois, mais elle a diminué. Et on était obligé de faire, parce qu'on a tous une vie active, de faire venir des aides à domicile. Et là aussi, il y avait un grand manque de formation. Hein, ce sont des personnes, quelquefois, qui sont recrutées sans formation.
À la va-vite aussi, parce qu'on manque de personnel, j'imagine.
Que là, on a changé d'association, mais elle a dû déménager. Ma mère a déménagé à 103 ans et s'est adaptée.
C'est incroyable, ça. Quel beau témoignage.
Oui. Et bah, c'est un beau témoignage, un bel exemple. Mmh. Et elle, comment dire, quand on l'avait, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. En fait, beaucoup de personnes se suivaient. L'aide à domicile envoyait 3 fois par jour des personnes au moment des repas. Lui présentait le repas, mais comme elle disait, bon, j'ai pas faim. Le repas était régulièrement jeté. Donc, on avait des rapports un cahier de liaison. Et puis, repas, petit déjeuner, du pain, de la confiture, ainsi de suite. On avait aussi le parfum de la confiture. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle mangeait. Et puis, on s'en est rendu compte parce qu'elle a eu des troubles physiques. Elle était déshydratée. Et puis, on pensait qu'elle était bien, bien suivie. Bien, et... Je suis restée chez elle et puis j'ai remarqué que les repas étaient vite partis. Au bout d'une semaine, j'ai observé. Au bout d'une semaine, j'ai vu aussi que c'était jamais les mêmes personnes qui venaient. Donc vous avez des personnes qui arrivent chez des gens qui ne savent pas où se trouvent les assiettes, où se trouvent les petites cuillères.
Ah, y a pas de suivi,
et comme elles ont une demi-heure pour tout faire.
On perd un temps précieux là, évidemment.
Oui, oui. Bon, donc là, et je n'ai jamais vu, jamais, la responsable du secteur passer. C'est-à-dire que les familles voient les responsables au moment de la commande, je dirais, et puis après, elles n'existent plus. Tant qu'on ne respecte pas, ça, il n'y a pas de retour. Non. Donc, à chaque fois, pendant 3 ans, je suis restée, on s'est relayé un de deux, mon mari et moi, pour l'accompagner. Et puis, on a réussi à mettre en route un rythme. Et ma mère, alors là, elle nous a impressionnés. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention. Et là, je pense qu'il y a une banalisation aussi de la vieillesse. En 15 jours, on a vu ma mère se réveiller. C'est-à-dire qu'elle avait des troubles, elle avait du mal à déglutir. Tous les symptômes qu'elle avait étaient des symptômes d'une personne malnutrie.
Ah.
Oui. Et on lui donna à manger normalement, sans médicaments, parce qu'à 103 ans, elle ne prend aucun médicament, sans médicaments, en respectant son petit rythme, eh bien, elle s'est remise à vivre. Et puis, je pense qu'elle en a profité, entourée d'affection, puis des visites régulières.
Annick, on marque une courte pause, si vous le permettez, puis vous me racontez la suite de l'histoire dans une poignée de secondes. Annick, vous êtes là ?
Oui.
Oui, vous me disiez donc qu'en quelques jours, elle a retrouvé du poil de la bête, si on peut dire.
Oui, elle a tout à fait. Ouais. Et ce qui montrait bien quand même qu'elle était mal accompagnée. Hein, ouais. Et que les cahiers de liaison, on marque ce qu'on veut. Et si la personne. Et je pense aussi qu'il y avait ce cliché, le cliché de la personne qui est centenaire, c'est le moment où on meurt. Et ma mère, elle n'avait pas envie de mourir du tout.
Oui.
Bon, donc ça c'est... Et ça a été très difficile avec ce service parce que vous imaginez qu'on a quand même fait quelques petites réflexions service de soins. Même le service infirmier nous avait prévenu. Hein. Si on était arrivé, c'est aussi parce qu'il y avait eu un appel des infirmiers. Ce que je ferais comme parallèle, c'est ce que je vois à l'hôpital, ce que je vois dans les EHPAD. Et puis... dans ces services à domicile. On parlait tout à l'heure de relations humaines qui étaient quelquefois mal conduites parce que par manque de formation. Là, c'est la même chose. Vous avez encore une organisation verticale. On donne des ordres d'en haut, puis ça arrive en bas. Hein. Et puis, c'est toujours l'usager, pour ce qu'ils appellent, on appelle les usagers, les personnes qui font appel aux aides à domicile, qui sont en bas de... à la fin du parcours. Je ne dirais pas en bas de l'échelle, mais à la fin du parcours.
Au bout du chemin, on va dire. Oui.
Au bout du chemin, oui, tout à fait. Et ça, je trouve qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a un parallélisme à faire. J'ai l'impression que qu'on retrouve les mêmes problèmes. Et ma maman, à un moment donné, on était obligé d'être de plus en plus là parce que dans l'organisme qui me donnait les soins à domicile rencontrait de plus en plus de problèmes avec leur personnel qui était de plus en plus en arrêt de travail.
Ah oui.
Et quand le Covid est arrivé, alors je dirais qu'ils assurent à peu près la moitié des heures
qui étaient prévues.
Hein, une trentaine d'heures au lieu de 65 sur le mois. Avec le Covid, c'était encore plus difficile. Et puis, moi, j'ai un fils qui est en grande difficulté. Et je m'occupais moins de lui. Mon mari et moi, on s'occupait moins de lui. Et ça s'est ressenti, il a été de plus en plus mal. Donc, il a fallu réfléchir à une solution pour ma mère, qui voulait rester chez elle. Et elle est partie chez mon neveu, un neveu qu'elle a élevé, parce que mon frère et son épouse sont décédés quand mon neveu était très jeune et ma mère l'a élevé. Et on a discuté des problèmes qu'on rencontrait, il a pris ma mère chez lui. Alors, il est célibataire parce qu'il est curé.
D'accord. Donc, elle était plutôt entre de bonnes mains.
Elle a été prise entre de bonnes mains et comme elle adore mon neveu parce que, quand elle l'a eu, on était tous mariés. Ma mère, j'ai oublié de vous dire, a eu 10 enfants.
Combien ? 8 ?
10.
10 ?
10 enfants. 10 enfants, oui, oui.
Et sacrée femme, dis donc, votre maman.
Ah oui, c'est une sacrée. Et mon père aussi, d'ailleurs, mais il est décédé bien avant elle. Et elle a donc mon neveu l'a pris chez elle à 110 km de et on lui a expliqué, elle m'a pris les choses et on lui avait dit de toute façon si ça va pas ta maison est là, tu pourras toujours y revenir, hein, donc elle savait que si ça, et elle s'est très facilement habituée, ça fait depuis le mois de juillet qu'elle est chez lui et ça se passe bien. Et là, alors, le service à domicile, ça se passe, les aides à domicile, ça se passe très bien. Et le service infirmier, il fait son boulot, mais c'est assez familier avec ma mère. On l'appelle par son prénom, qu'elle a un autre prénom que le sien, l'appelle Marie, c'est pas son prénom. Alors qu'elle a toujours été appelée et habituée à ce qu'on l'appelle Madame une telle, qu'on la voit. Quand on fait sa toilette intime, c'est « Allez, on va laver la pépette ».
Oh là là, il n'y a aucun respect. Quoi.
Non, non. Mmh. Par contre, le travail est fait. Et là, ça me met en boule parce que je me culpabilise pas d'être moins là. Et puis, mon neveu me dit « Oui, mais le principal, c'est peut-être que le travail soit fait ».
C'est vrai aussi, mais pas que. C'est, le problème, c'est que c'est un ensemble.
Oui, et j'ai très peur de revenir quand une infirmière s'exprime comme ça, parce que en ayant exercé, je me suis jamais permis de faire ça, ça m'est jamais venu en tête.
Oui, c'est sûr, vous avez un regard encore différent, étant du métier vous-même, c'est forcément encore plus difficile pour vous, parce que vous savez que ça se fait pas, quoi, simplement.
Non, ça se fait pas. Et, oui. Et elles sont trois. Elles sont trois, il y en a une principale plus que d'autres. Alors je me dis quand je vais... ma mère, heureusement, est mal, très très malvoyante et très malentendante. Je me dis, j'espère qu'elle n'entend pas, parce que ça lui ferait mal. Parce que Marie, bon, c'est peut-être la Vierge Marie pour les gens catholiques, mais pour les gens qui ne sont pas, c'est aussi Marie Couchouala, Marie Salope. La Marie Salope, c'est une serpillère. Hein.
Est-ce que vous pourriez vous permettre de les recadrer en douceur?
Alors, il faut que j'y arrive et je suis en train de me préparer à le faire, mais j'espère ne pas faire passer l'affectif. Parce que.
Oui, c'est pour ça, c'est une bonne idée de vous préparer pour pas que ça sorte un peu n'importe comment. Non. Si vous voulez.
Ça risque d'être assez cinglant.
Ça risque d'être contre-productif si vous êtes trop cinglante et peut-être que ça ne sera pas le résultat escompté.
Non. Je pense que ça ne servira à rien. Ou je me tais, et puis bon, j'attends que ça se passe. Ou bien alors, je trouve une plaisanterie, je peux très bien appeler l'infirmière Simone.
Ou alors, vous restez dans le factuel, Simone, simplement, vous ne jouez pas la carte de l'émotionnel.
Oui.
Vous restez dans le factuel.
Et je ne sais pas comment faire. Quelquefois, je me dis, je vais lui dire, heureusement qu'elle n'entend pas. C'est dommage que vous ne l'ayez pas connue avant.
Vous savez, dans ces cas-là, ce que je conseille souvent pour éviter le conflit, c'est de ne pas parler de l'autre. C'est-à-dire ne pas dire « vous avez dit ci, vous êtes comme ci, vous faites ça », mais dire « je suis mal à l'aise quand je vous entends parler comme ça. Je me sens... ça me choque, ça me gêne. »
La première fois que je l'avais vue, cette dame, elle voulait que j'appelle par son prénom. Et je lui ai dit « on ne se connaît pas assez, je vais avoir du mal ».
Oui, ben voilà, vous avez le droit aussi de dire ce que vous ressentez sans être dans une accusation pour éviter l'escalade de l'agressivité, évidemment.
ça servira à rien cette escalade. Et c'est vrai que.
Mais en même temps, je comprends que vous pourriez basculer dans quelque chose d'émotionnel, et c'est normal. C'est pour ça que je me permets de vous conseiller de parler plutôt de ce que vous ressentez plutôt que de ce que l'autre a fait.
Ça me fait mal au cœur pour ma mère parce que j'ai connu, c'est une belle dame, quoi. C'est, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle ne s'est pas occupée que de ses enfants. Mmh. Elle a fait partie, après-guerre, des gens qui ont créé les UDAF. Vous voyez, c'était des gens qui ont peut-être eu beaucoup d'enfants, pas malgré eux parce qu'il n'y avait pas la contraception, mais parce qu'ils le voulaient aussi.
Oui. Oui, j'entends bien à travers votre récit que c'est une femme, une forte personnalité, quoi. C'est quelqu'un.
Ah, c'est quelqu'un. Mm. C'est quelqu'un qui avait du caractère qui perd ses capacités. Mais donc la difficulté aussi, c'est de se trouver devant des personnes qui la voient aujourd'hui telle qu'elle est. Hein, avec,
Et pas avec votre regard à vous, bien sûr.
Non, pas du tout.
Ça, c'est normal. Mm.
Mais je trouve que les soignants gagneraient à savoir qu'une personne âgée n'est pas une c'est pas une personne qui est invalide, c'est une personne qui a vécu, on est là aussi grâce à elle. Il y a, je trouve, un manque de respect par rapport aux personnes âgées. Et que je reprends, c'est pour ça que le témoignage de Marie m'avait un petit peu touchée hier.
De Claire, vous voulez dire ?
De Claire, par rapport à sa fille Marie. Oui. C'est que dès qu'une personne n'a pas les capacités, ne rentre pas dans les normes, j'ai l'impression qu'on la prend. Dès qu'une personne est un peu vulnérable, on la prend de haut. Quelquefois, cette familiarité, je pense que les gens considèrent ça un peu comme une expression affective. Hein ?
Alors après, moi, je vous dirais, Annie, que tout dépend de l'intention. Quelquefois, ça peut être mal perçu parce que c'est maladroit. Mais si l'intention est positive, moi, je dirais que ce n'est pas un problème à ce moment-là. Mais il faut, ce qui est intéressant toujours dans ces cas-là, c'est de comprendre l'intention. Si c'est fait avec un léger mépris ou une condescendance, alors là, ce n'est pas acceptable. Oui. Si c'est de la maladresse, à ce moment-là, il faut juste expliquer à la dame que ça vous gêne, quoi, tout simplement.
Oui. Bon, alors là, c'est moi. Bon, à la limite, peu importe. Mais c'est pour ma mère et pour les autres. Parce que ce qui lui arrive, ça arrive très souvent. Et c'est là-dessus que je suis touchée. Parce que dans nos métiers, on n'a pas à faire ça. Le respect, on a des codes. Le langage, c'est un code. Et dès lors qu'on tutoie quelqu'un, qu'on le rebaptise autrement que par son nom, je pense que je trouve pas le mot.
C'est un manque de respect. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez.
Oui. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est condescendant dès lors qu'on se permet ça. Je pense qu'une personne qu'on appelle par son prénom, c'est parce qu'elle nous l'a demandé. Hein? Et le respect aux personnes âgées, je trouve qu'il est normal, aux personnes handicapées aussi. Ouais. C'est pas parce qu'une personne un manque de capacité qu'elle n'a pas le droit, même respecte tout le monde. Ça fait partie des codes du langage.
Déontologique aussi, tout simplement. Ça s'appelle se mettre en position haute, ce qu'elles font.
Oui.
Et mettre l'autre en position basse. Maintenant, une fois encore, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est l'intention. Parce que si l'intention n'est pas négative, alors il suffit d'un petit recadrage. Dire, écoutez, je sens bien que voilà, vous êtes très sympathique et vous pensez que blablabla. Bla bla. Mm-hmm. Moi, je ne crois pas que tutoyer ou se comporter comme ça soit approprié dans ce cas-là. Et si la personne, si son intention est positive, je pense qu'elle peut parfaitement entendre ça. Oui. Après, si l'intention n'est pas positive, alors effectivement, il faut recadrer de manière un petit peu plus sévère.
Tout à fait.
C'est juste une question d'intention de la personne. Parce que quelquefois, je pense que c'est juste aussi la maladresse.
Oui.
Il y a des gens qui ont Il y a des gens qui ont ce côté, vous savez, ils vous tapent sur l'épaule, ils vous tutoient, ils vous parlent comme si on avait gardé les chèvres ensemble la veille. c'est assez marrant parce que ça m'arrive aussi de temps en temps, je reçois des courriers comme ça et selon l'intention, je le prends bien ou mal. Il y a des gens, ça me fait sourire et ça me touche, d'autres, ça m'agace terriblement. Et ça dépend pas de l'intention, c'est toujours pareil.
Alors, je fais aussi un parallèle entre le service d'aide à domicile qu'elle avait dans son habitation, avant, et ces infirmières qui sont comme ça. Et Souvent, cette familiarité, cette infantilisation, puisque bon, les mots genre pépette et tout ça, je trouve que c'est pas, hein,
oui,
c'est plutôt une infantilisation.
C'est moyen, ça, oui.
Oui, mettre une couche et ne pas mettre sur la chaise percée, n'est pas aidé à mettre sur la chaise percée alors que la personne n'est pas incontinente.
Là, c'est encore autre chose. On va bien au-delà des mots, là, c'est autre chose. C'est presque une maltraitance par moment, ça.
C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Ouais.
Hein? Et c'est ce qui s'est passé aussi avant avec des aides à domicile qui ne se rendaient pas compte qu'une personne ne pouvait pas se contenir une journée entière.
Je comprends, Annick, mais quand Claire, l'autre Claire, nous dit que c'est désespérant parce que les pauvres infirmières, elles ont 20 personnes qu'elles n'ont pas les moyens, pas le temps. Où est la solution ?
Alors, c'est ça la solution. C'est là-dessus que je voulais en venir aussi, parce que c'est la banalisation. On banalise tellement qu'on en vient à voir la rentabilité. On en vient à voir la rentabilité d'un service. Moi, après avoir été infirmière, j'ai refait une formation. Oui. Je suis rentrée, une reconversion. Et j'ai une agence de communication, de publicité. Et donc, j'étais amenée à rentrer dans beaucoup de structures. Et puis, de fil en aiguille, une partie de ma clientèle, c'était des structures hospitalières. Hein. Et j'avais souvent, c'est très récent, l'objectif, c'était la rentabilité, accueillir plus de clients. Et donc, on montrait tous les côtés positifs des structures.
C'est ce qu'on disait hier, c'était la vitrine.
C'est la vitrine,
oui, tout à fait.
Et par exemple, je me souviens d'un établissement qui soignait des personnes cancéreuses. Il faut savoir que les soins, certains médicaments pour les cancéreuses sont très très chers. Et dans cet établissement, quand une personne atteinte d'un cancer en arrivait à avoir un traitement trop cher, on essayait de l'envoyer vers le CHR de la région.
Oui.
Donc, Et je comprends que derrière, on recherche la rentabilité. Mais moi, j'ai eu des salariés et j'ai remarqué une chose, c'est quand on les valorisait dans leur travail, quand on leur montrait que ce qu'ils avaient fait avait permis de bien réussir un événement, de booster une entreprise, que des ventes ont augmenté, ils étaient contents. Et ils étaient encore plus stimulés pour le suivant ou recommencer avec ce même...
Mais c'est exactement la conversation qu'on avait hier avec Claire, la deuxième.
Oui.
C'est que ça fait des décennies qu'on le dit, ça. On le sait que c'est un problème d'argent, mais rien ne change.
Oui. Alors, ça coûte très cher, c'est vrai, les soins. Je pense que c'est le bien-être de... Le bien-être, une bonne organisation permet sans trop d'argent, sans dépenser tant d'argent que ça, permet d'améliorer les choses, quelle que soit la structure. Et vous le retrouvez en entreprise.
Oui, peut-être aussi, effectivement, si les gens étaient mieux encadrés, mieux formés.
Oui.
Mais il faudrait reprendre des choses tellement à la base pour beaucoup de monde. Hein.
Oui. Valoriser le métier. Mais la formation, elle existe. Les employeurs cotisent pour payer des formations. Il y a des cotisations qui sont faites les formations. Mais est-ce que les formations, justement, au bien-être en entreprise, au respect du client, parce que le patient, on peut dire que c'est aussi un client, ces formations existent, mais c'est pas pour autant qu'elles sont choisies. Et pourtant, je suis sûre qu'elles sont rentables.
Oui, peut-être qu'il faudrait les rendre obligatoires à un certain niveau.
Oui, dès lors qu'il y a du relationnel. Oui. Et alors, cette année, justement, les études de médecine ont changé. Et pour la première fois, il y a des formations qu'ils appellent humanitaires qui sont proposées aux premières années d'études de médecine, de ce qu'on appelle le tronc commun pour les kinés, les pharmaciens, etc. Et ça, je trouve que c'est bien. Cette fois-ci, on est, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui a été faite.
Moi, je vous garantis en tout cas que j'ai de plus en plus de personnel médical, alors que ce soit des infirmières, des médecins, des soignantes, et qui se forment effectivement ou qui se posent des questions. Et qui viennent parler de programmation neurolinguistique,
la PNL,
tout à fait, qui viennent se former à l'hypnose pour gérer le stress et la douleur aussi. parce qu'elles en ont assez de se sentir impuissantes. Et je trouve ça touchant, beaucoup d'infirmières qui me disent, voilà, comment je peux apprendre l'hypnose pour pouvoir aider les gens que je n'arrive pas à aider parce que je ne peux pas passer ma vie à les bourrer de médicaments.
Oui.
Ou à ignorer leur souffrance, leur détresse. Oui. Donc c'est quand même des petits signes encourageants, même si je pense qu'il faudra, j'ose pas dire une génération, peut-être deux, pour que les choses commencent vraiment à changer.
Et justement, moi j'avais envie de téléphoner pour ça, parce que je me dis, bon, c'est qu'une petite goutte d'eau ce que je fais ce soir, mais appuyer là-dessus, demander ce changement. Quand je vois qu'en 74, on avait les mêmes revendications, qu'en 80, j'ai arrêté mon métier, j'ai fait autre chose parce que j'avais l'impression de servir à rien.
Oui.
Est-ce qu'on ne démotive pas du personnel? Bon, je peux rouspéter sur ce... Bon, je vous ai donné des exemples sur ma mère, sur ce que j'ai vu dans certains hôpitaux. Mais est-ce qu'on ne démotive pas les gens quand on leur... On banalise la maladie, qu'on devient un petit peu... On s'habitue à la douleur, on s'habitue à voir les gens. Et quand les gens souffrent... Et puis, on a toujours de bonnes excuses aussi, quelquefois, pour ne pas aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a cette fatigue, mais quand je repense, par exemple, au repas qui était jeté pour ma mère, pourquoi pas noter « n'a pas mangé » et puis la famille donne à manger derrière. Il y a des gens que je trouve très... qui sont empathiques et qui vont permettre aux patients d'aller bien. Puis il y a les autres, c'est leur objet de travail. Puis on a servi le repas, puis on n'a pas faim, on s'en va.
Espérons que les choses petit à petit vont changer. Annick, merci pour cette petite goutte d'eau. Merci pour votre témoignage, je vous embrasse et j'espère qu'avec plein de petites gouttes d'eau, un jour, les choses changeront.
J'aimerais bien.
Au revoir.
Merci, Annick. Qu'une goutte d'eau. Au revoir, bonne soirée.
Merci.